Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui... Dynamite, un peu en retard pour ce matin. J'espère que nos auditeurs ils sont plus réveillés que nous finalement. On est en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne et le principe, c'est de former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio et d'enregistrer leur production sous forme de notre émission. Donc moi c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Ce matin avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille tous les mercredis soirs. On a des thématiques aussi zen que dynamiques pour ce réveil en douceur. Je souhaite la bienvenue dans le studio ce matin à Fatih la féministe.
Hello.
Bertil et ses infinis.
Bonjour.
Marion, les handicaps en question.
Bonjour.
Jules et ses JO. Nous avons enfin Psychopathe.
Enchanté.
Et Martin, notre étoile filante.
Bonjour.
Eh bien, honneur aux dames, pour commencer cette émission du week-end, je ne voudrais surtout pas m'attirer les foudres de Fatih. On commence donc avec Bertil, domaine de l'infini. Où nous emmènes-tu ce matin, Bertil ?
Bonjour auditrices, auditeurs, promenons-nous ensemble dans le monde de l'infiniment petit pour y goûter sa magie. Nous avons parlé de mécanique quantique et de lumière la dernière fois. Revenons à nos photons dans lesquels nous baignons. Je vais vous parler de téléportation quantique et de ses mystères. Mais de quoi s'agit-il ? La téléportation quantique utilise le phénomène d'intrication entre deux particules. Une paire de photons intriqués possède des propriétés tout à fait surprenantes. Aujourd'hui, les physiciens parviennent à isoler des photons un à un. Une source émet deux photons, selon certaines recettes, pour que leur comportement soit lié. C'est cette propriété d'être jumelé qui porte le nom évocateur d'intrication. Voici une expérience bien connue des physiciens réalisée dans la fin des années 90. Une source crée une paire de photons intriqués. L'un des photons est envoyé à Alice, photon A, et l'autre vers Bob, le photon B. Les deux photons sont complètement séparés, même par une très grande distance. Prenons comme propriété la polarisation du photon avec trois états possibles. Eh bien, si Alice mesure par exemple une polarisation de son photon A, alors on connaît immédiatement l'état de polarisation du photon B, complètement indépendant du A. Bon, aujourd'hui, il est utilisé une certaine architecture de puces en silicium pour créer des photons intriqués. De très nombreuses expériences ont démontré qu'il n'y avait aucun trucage. Quand deux particules sont intriquées, leurs propriétés restent en quelque sorte connectées, même quand on les sépare, comme s'ils parvenaient à s'influencer à distance. L'application de l'intrication est la téléportation quantique qui agite l'intégralité des chercheurs en physique quantique sur la planète, tant les applications sont prometteuses. En effet, dans le monde entier, de nombreuses équipes travaillent au développement de la cryptographie quantique, des ordinateurs quantiques, de la communication quantique et de nombreuses autres idées d'applications technologiques. Voyons par exemple la cryptographie quantique. C'est une technique de communication qui consiste à échanger des messages secrets entre deux destinataires sans que ce message ne soit intercepté par un tiers, un espion. C'est un domaine qui intéresse les militaires, les banques et tous les acteurs de la sécurité de manière générale. C'est un sujet crucial aujourd'hui. C'est donc la manipulation des particules individuelles et l'intrication qui laissent envisager cette seconde révolution de la physique quantique. Tous les secteurs pourraient en bénéficier, l'informatique, la chimie, l'environnement, la biologie, les finances, l'aéronautique, la cryptographie, comme nous l'avons vu, le big data et l'intelligence artificielle. En conclusion, écoutons John Preskill, l'un des physiciens les plus respectés du domaine. Je pense que nous sommes aujourd'hui au tout début de l'exploration d'une nouvelle frontière de la physique. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous commençons à maîtriser les outils pour construire et contrôler avec précision les états quantiques très complexes et hautement intriqués. Je vous laisse rêver à ce nouveau monde infiniment petit qui pourrait bien expliquer des phénomènes physiques à l'échelle de notre monde et pourquoi pas à l'échelle de l'univers. La prochaine fois, nous changerons d'échelle pour entrer dans le cosmos. Dans le cosmos, je vous reparlerai de la lumière, porteuse d'informations à travers l'univers. Cette lumière qui arrive sur nos détecteurs permet aux astronomes de voir aujourd'hui le passé en remontant presque jusqu'au Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. C'est passionnant. À bientôt.
Merci, Mertil. Moi, j'apprécie toujours la facilité avec laquelle tu vulgarises un sujet pointu. Quand je t'écoute, j'ai l'impression d'être intelligente.
Et moi, je deviens passionnée.
Non, mais c'est formidable, hein, c'est formidable. Ben, on va rester dans le thème de l'infini. Alors, du coup, toi, tu nous as fait petit aujourd'hui. On va passer à grande échelle avec Martin, notre étoile filante, qui va nous parler d'un astre, certes, mais un astre pas filant, hein, bien ancré dans notre quotidien.
Salut tout le monde, comment allez-vous? Ce matin, nous allons parler de notre astre préféré à tous, le Soleil. Normal, c'est le seul. Pour commencer tranquille, un petit cours d'astronomie. Pour mieux connaître le Soleil, je vous propose d'étudier les étoiles. Une étoile est composée principalement d'hydrogène, mais aussi d'hélium, élément dont elle se sert pour produire de la chaleur et de la lumière intense. Il y a trois types d'étoiles. Les géantes bleues, qui ne peuvent vivre plus de 10 millions d'années. Les naines jaunes, dont fait partie le Soleil, qui vivent 10 milliards d'années. Et enfin, les naines rouges, qui vivent plusieurs dizaines de milliards d'années. Venons-en au Soleil, en quelques chiffres, tout d'abord. Vous avez une idée de sa température ?
Très chaud.
Brûlant.
Brûlant.
En fait, à sa surface, il fait 5772 degrés Celsius.
Ça va.
Et à son noyau, où atteint les 15 millions de degrés.
Oh, wow.
Et sa masse?
Très gros.
Vous allez dire très tatata.
À chaque fois.
Ou immense, ou machin, tout le temps, en fait.
Ou naine, non?
Il fait 1,989 milliards de milliards de milliards de tonnes. Du coup, trop compliqué de vous le dire. Il faut seulement retenir qu'il n'y a pas moins de 31 chiffres. Imaginez-vous juste qu'il représente à lui tout seul 99,86% de la masse du système solaire. Donc de la masse de toutes les planètes.
Ok, ça donne une idée.
Maintenant, je vais vous donner d'autres informations étonnantes. Parlons de la lumière du Soleil qui arrive sur la Terre. Une année-lumière représente 9500 milliards de kilomètres. La Terre étant à 150 millions de kilomètres, un rayon partant du Soleil nous arrive au bout de 8 minutes.
Comme j'ai cru que t'allais nous le demander de tête, j'étais perdue là.
Non, maintenant il n'y a plus de questions. Comme les planètes, le Soleil tourne sur lui-même. Pour rappel, c'est la rotation. Il fait un tour complet en un peu plus de 25 jours. Et vous vous souvenez le terme pour indiquer que les planètes tournent en orbite autour du Soleil ? La révolution. Je crois que je l'ai dit un peu vite, j'aurais dû poser la question.
Ouais, mais t'as dit qu'il n'y avait plus de questions, alors du coup, nous, on n'était pas prêts. Hein. Ah.
Mais j'ai enchaîné, j'ai fait comme s'il n'y avait pas de points.
Enchaîne.
Eh bien, le Soleil lui-même, donc tout le système solaire, tourne autour de la Voie lactée. Vous imaginez ça? La révolution du Soleil autour de la Voie lactée dure environ 250 millions d'années. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé son combustible et se gonflera. Il deviendra une étoile géante rouge, si grosse qu'elle avalera Mercure et Vénus, et possiblement la Terre. Une dernière petite chose à vous dire, les scientifiques observent le Soleil, mais pas sans précaution. En effet, regarder le Soleil à l'œil nu nous rendrait aveugles. Il faut donc le regarder avec du matériel adapté. Des lunettes ou des télescopes avec des filtres spéciaux ou un solarscope qui projette l'image du disque solaire sur un écran.
Merci Martin. Voilà. Moi je me souviens quand j'étais enfant, il y a une éclipse total du soleil, et je crois que c'était en 99, et on nous disait aussi portez des lunettes, faites attention, enfin il y avait des précautions à prendre, comme tu viens de nous dire, pour regarder justement l'éclipse, parce qu'on allait regarder le soleil et que c'était pas très bon pour la vue.
Moi aussi je m'en souviens, mais j'étais plus enfant.
Oups. Eh bien, on va rester dans un domaine qui éclaire le monde. Dis-moi, Fatih, la féministe, à propos de quoi tu vas échanger ce matin? Qu'est-ce qui te révolte ce matin? Parce que souvent, t'es révoltée quand même.
Ah oui, tu trouves? Bon, non, c'est plutôt zen. Je vais vous parler des discriminations, mais avant d'y arriver, je vous explique.
Ça marche.
Hello tout le monde, petite chronique du matin histoire de bien commencer la journée pour vous parler du processus de fonctionnement de nos sociétés humaines. Vaste programme, n'est-ce pas? Non, en fait, Fatih, la féministe que je suis, se propose de faire une modeste analyse de comptoir de bar autour de la question suivante. Comment, à partir de nos différences, naissent les préjugés, terreau des discriminations? Telle est la question. Commençons par un petit cours d'anatomie. Les corps des filles et des garçons se différencient fortement à partir de l'adolescence. Les hormones, messagers chimiques envoyés sur ordre de notre cerveau, en sont à l'origine. Quelles sont ces hormones? Eh bien, nous avons les œstrogènes et la progestérone pour le genre féminin, la testostérone pour le genre masculin et les androgènes qui, elles, sont des hormones mixtes. Nos chères hormones induisent donc des fonctionnements genrés, typiquement féminin ou masculin. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit genré, mais ceci relève d'un autre débat. Donc, ces différences de comportement nous font parfois percevoir l'autre avec un grand A, étrange ou incompréhensible, stimulant ou attirant, ce qui est essentiel pour la survie de l'espèce. Et c'est la neurobiologiste Lucie Vincent qui l'a démontré. Notre cerveau, aiguillé par des odeurs corporelles, chercherait inconsciemment un amoureux ou une amoureuse dont le système immunitaire serait très différent du sien. Car en cas de reproduction, l'enfant à naître aurait dès lors des défenses immunitaires topissimes. Ainsi, les différentes hormones sont à l'œuvre, pour la survie de l'espèce. Génial, on peut donc continuer à contribuer à la surcharge pondérale de notre planète. Mince, voici poindre un autre débat. Donc revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos hormones. En fait, nos hormones et nos comportements genrés sont à la source des préjugés. Ben oui, parce qu'au niveau social et culturel, cela induit des approches différentes selon que l'on est fille ou garçon. Et ça, c'est pas cool. C'est pas le cool parce que ces préjugés enferment malheureusement hommes et femmes dans des rôles stéréotypés. Du type, la place de la femme, ben c'est à la cuisine. La place de l'homme, c'est au charbon. Oups, mais il n'y a pratiquement plus de mine à charbon. Nous avons aussi Catherine Vidal, une autre neurobiologiste, qui nous dit que parmi les idées reçues, toujours fermement ancrées dans les inconscients collectifs, les femmes seraient naturellement multitâches, sensibles, empathiques, mais incapables de lire une carte routière. C'est cela, oui. Donne-moi une carte routière et je te dirai où et comment on y va.
Mais c'est un peu comme les mines à charbon, il n'y en a plus des cartes routières, il y a des GPS maintenant.
C'est clair. Oui, mais la femme peut compléter le GPS, je te le dis. Tandis que les hommes seraient bons en maths, un peu bagarreurs et attirés par la compétition. Donc les hormones sont douées. Les hommes, pardon, pas les hormones. Les hommes sont doués pour les sciences et aiment la compétition. Les filles sont très à l'écoute et faites pour travailler dans le social. Un sacré conditionnement quand même, qui en premier lieu se passe dans l'entourage. Famille, école, cercle d'amis. Entourage qui lui-même en fait est socialisé dans des rapports aux autres sexués. Tout le monde a entendu des phrases du genre « Un garçon, c'est fort, ça ne pleure pas. Le rose, bah, c'est une couleur de fille. » Ou encore « On ne se tient pas comme ça quand on est une fille. » Et les voici donc ces fameux préjugés véhiculés allègrement. Avant même la naissance d'ailleurs. Pas de nausée, c'est un garçon. Envie de vomir, c'est une fille. Libido au plus haut, c'est un garçon. Désir en berne, c'est une fille. Eh bien, que de négatif pour la fille. Bref. Vient ensuite l'offre culturelle qui est une autoroute à stéréotypes. En effet, avant qu'ils sachent lire, nos bambins sont bombardés de schémas hypergenrés, au travers non seulement du décor de leur chambre, de leurs vêtements, mais aussi des films, des dessins animés, des catalogues de jouets ou encore de la littérature jeunesse. Tout est en place pour pérenniser le fonctionnement de nos sociétés patriarcales.
Oups, le mot, ça y est.
J'ai fini par le lâcher. Donc, le fonctionnement de nos sociétés patriarcales par la différenciation d'une part et par la hiérarchisation d'une part. Je vous explique. Pérennisation du patriarcat par la différenciation, puisque les filles doivent être soignées, douces, discrètes, aimantes, tandis que les garçons se représentaient comme des petits costauds touche à tout programmés pour se dépasser physiquement et psychologiquement et gagner. Et pérennisation du patriarcat par la hiérarchisation, puisque par la suite, à l'âge adulte, la société reconnaît davantage les professions de leader que les métiers du soin et de l'entraide. Or, fort heureusement, grâce aux neurosciences et à l'imagerie médicale, on sait aujourd'hui que la détermination biologique à être un homme ou une femme est extrêmement limitée à la base. Les principales fonctions du cerveau qui diffèrent chez les garçons et les filles sont celles qui contrôlent les fonctions de la reproduction, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut. Mais si l'on s'intéresse aux fonctions cognitives, intelligence, capacité de raisonnement, de mémoire, d'attention, de repérage dans l'espace, les études montrent que chez les 0 à 3 ans, filles et garçons ont les mêmes aptitudes. Des capacités innées qui seront ensuite modelées par l'environnement. Donc, vous l'aurez compris, de ces fameux préjugés découlent les discriminations. Les discriminations, vous savez, cette attitude qui consiste à refuser à certains groupes humains des droits qui sont accordés par contre à d'autres. Les principales victimes, les femmes bien entendu, mais pas que. Il y a aussi les enfants, les étrangers, les handicapés, etc. Et il y en a dans tous les pays du monde des discriminations. Allez, je balance. En France, par exemple, les hommes sont parfois, enfin disons encore trop souvent, mieux payés que les femmes pour un même poste. Néanmoins, cette discrimination est punie par la loi. Enfin, disons quand la preuve en est apportée. En Arabie Saoudite, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de conduire ni même de voyager sans l'autorisation de leur mari, car toujours considérées comme des mineurs. Les hommes et les femmes n'y sont pas égaux en droit. Ces discriminations sont quant à elles prévues par la loi. Allez, je continue sur ma lancée avec une petite liste de discriminations faites aux femmes, non plus juridiques, mais culturelles cette fois, et ce toujours à l'échelle planétaire. Nous avons les mariages arrangés ou forcés qui empêchent les filles de poursuivre leurs études, et donc les rendent plus vulnérables et donc moins autonomes. Nous avons aussi des femmes et des jeunes filles accusées d'avoir nui à la réputation de leur famille, et qui peuvent donc être tuées par des proches. On les appelle des crimes d'honneur. Il y a encore de nos jours de nombreuses filles qui subissent l'excision. Vous voyez, j'ai du mal à le dire tellement ça me fait mal. L'excision, c'est-à-dire la mutilation génitale féminine. Et pour en finir avec mes exemples, somme toute douloureux, il y a une préférence pour les garçons très marquée dans certaines contrées, avec le refus d'accueillir un bébé de sexe féminin en ayant recours à l'avortement sélectif ou à l'infanticide, privant ainsi la population de millions de femmes. Vous imaginez des millions d'êtres humains extraordinaires ? Ouais, quel gâchis quand même.
Ouais, je suis d'accord.
Sans parler du fait que, pour la survie de l'espèce, sans femme, il n'y aura plus d'hommes, avec un grand H. Allez, un petit récapitulatif quand même avant de nous quitter, au cas où je vous aurais perdu en cours de route. Les hormones induisent des comportements différents qui eux-mêmes viennent justifier des préjugés créateurs de stéréotypes qui sont à l'origine de discriminations et d'un monde inégalitaire. Ah bah les hormones, non je plaisante, ah bah les préjugés, parce que comme l'écrivait déjà le philosophe Gigi Rousseau, Jean-Jacques, en son temps, ouvrez les guillemets, la raison, le jugement viennent lentement, les préjugés accourent en foule, fermez les guillemets.
Merci beaucoup Fatih. Eh bien écoute, je propose une courte pause musicale, histoire que nos auditeurs puissent un peu digérer tout ce qu'on vient de leur dire. J'ai choisi la chanson Motherland, un magnifique hymne à la femme et aux mamans, de Nathalie Merchant, issue de ma playlist Deezer Girl Power.
Yes.
Voilà, pour la petite anecdote.
Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way. About 1,000 miles a day. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Keep your heart off your sleeve. Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my five and dime queen, tell me what have you seen? Lost and the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. It's your happiness I want most of all, and for that I'd do anything at all. Oh, mercy me, if you want the best of it, or the most of all. If there's anything I can do at all, come on, shotgun bright. What makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, and free. What's that like to be? Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. Don't go. Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay.
Et nous voici de retour dans la matinale
infernale.
On est toujours sur Graphite avec les participants de l'atelier d'écriture organisé par les bibliothèques de Compiègne. Après avoir parlé du soleil, de l'intrication des atomes et des discriminations, nous allons enchaîner avec Marion, les handicaps en question. Marion, mais dis-moi, quel handicap n'as-tu pas encore abordé avec nous ?
Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ?
Handicap moteur, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, chères auditrices et auditeurs et chers co-animateurs. Commençons cette chronique sur une question ouverte. Dites-moi, pour vous, quelles personnes vont entrer dans la catégorie du handicap moteur ?
Les personnes qui sont en fauteuil roulant.
En plein dans la brèche. Oui, les personnes à mobilité réduite ou PMR, effectivement, mais pas que. Il faut savoir que seul un quart des personnes souffrant d'un handicap moteur se déplacent en fauteuil roulant. D'autres idées ?
Les personnes qui ont un membre en moins.
Un membre en moins, voilà, par exemple, oui.
Et genre même un bras ?
Un bras, oui, une amputation. Eh bien, voici une petite liste loin d'être exhaustive. Les amputations, effectivement, l'épilepsie, l'arthrose, les accidents vasculaires cérébraux, les hernies, les myopathies, la maladie de Parkinson, les tendinites, etc. etc. Qu'est-ce que cette liste vous évoque ? Effectivement, une catégorie très large de personnes entre dans cette catégorie de handicap. Le handicap moteur regroupe aujourd'hui beaucoup d'atteintes de différentes origines. Peut-être d'origine génétique, les myopathies notamment, accidentelles ou cérébrales. Pour mieux en définir les contours, il va représenter toute atteinte osseuse, tendineuse, musculaire et de la moelle épinière, en gros, ce qui est de la mécanique du corps, et être plutôt défini en termes de limitations, telles que le déplacement, rupture des tendons, fracture du ménisque, par exemple, la fonction posturale, se tenir assis, debout, on y trouve les hernies discales, l'action sur le monde extérieur, préhension, manipulation d'objets, comme pour le syndrome du canal carpien.
Oui.
La communication, paroles, gestes et mimiques, écriture, notamment lors d'un traumatisme crânien. L'alimentation, mastication, déglutition, c'est le cas pour la sclérose en plaques. La perception du monde extérieur, mouvement des yeux, inflammation du nerf optique par exemple. Les mouvements réflexes. Exemple, retrait de la main qui touche un objet brûlant, dans la maladie de Charcot, la motricité automatique, des muscles
d'appareil. Ça veut dire qu'il y a, il y a des personnes qui vont laisser leur main sur le truc brûlant.
Oh my God. Ils perdent la sensation de
chaud-froid.
Il faut savoir que trois causes principales provoquent ces handicaps moteurs. Les accidents de la route, la pratique sportive et la troisième, une idée ?
Non.
T'as parlé d'accident cardiovasculaire, non ? T'as pas dit ça ?
Alors non, c'est pas un des principaux. Un indice, si je vous parle de grandes plateformes de livraison, par exemple...
Oui, on pense tout ça.
Eh bien, le travail est une des grandes causes de troubles musculo-squelettiques et de handicap moteur.
Avec les mauvaises postures, tout ça ?
Exactement. Et selon ces trois causes... Qu'est-ce que ça peut nous évoquer par rapport aux personnes reconnues handicapées motrices ? Est-ce que nous ne pourrions pas éviter quand même une grande partie de ces handicaps ? Et par quels moyens ?
Tu vas nous le dire.
La prévention. Dans les cas des accidents de la route et sportifs, la limitation de vitesse, l'amélioration des équipements ont largement amélioré la situation, sauf que pour une amélioration... Il y a un pendant négatif, on a des ceintures de sécurité, mais du coup, on fait moins attention à la vitesse. Enfin, il y a toujours un côté. Ce qui occasionne, de ce fait-là, une grosse problématique de prévention qui n'est pas d'aménagement, etc., c'est l'auto-prévention. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui, les vélos, les trottinettes électriques... Ne sont-ils pas facteurs de danger et d'accident de la route ? Dans le domaine du travail, on a vu évoluer aussi l'adaptation des postes informatiques, notamment dans le domaine administratif. Des ordinateurs à hauteur, des souris verticales. Dans le domaine du transport également, des sièges sont maintenant ergonomiques. Il y a beaucoup de plus en plus de boîtes automatiques. Par contre, pour tout ce qui est des métiers de manutention, de posture pénible, nous avons encore un train de retard. Il existe en effet des moyens de ne plus porter de charges lourdes, comme pour les maçons, les préparateurs de commandes, ou d'avoir une posture penchée en avant, comme un mécanicien automobile par exemple, grâce à un aménagement qui est un exosquelette.
Oh.
Cependant, ils sont mis en place aujourd'hui pour des personnes rencontrant déjà des difficultés physiques lorsqu'elles ont un risque d'inaptitude et non de manière préventive. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi on installe facilement une souris et pourquoi pas un exosquelette ?
C'est pas le même tarif.
C'est pas le même tarif. Les entreprises voient toujours à courte échéance et face au prix et aux investissements, ne font pas la balance avec le coût que leur coûtent les arrêts ou les accidents de travail, qui au final leur reviennent finalement plus cher. Pour finir, une autre idée de prévention qui se développe, assez originale et sympathique, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, dans certains métiers, notamment l'aide à la personne, le font pas mal maintenant, aujourd'hui. Une idée ?
On est tous en grande réflexion, là. Mais...
Eh bien, une petite séance de mobilisation articulaire et musculaire chaque matin, un petit peu de sport, de yoga, permettent d'éviter un nombre de problèmes musculaires et tendineux et de renforcer le maintien du squelette.
Et ça fait une sorte d'échauffement et de renforcement musculaire
Voilà, pour aider les aides à la personne, elles vont être assez musclées et assez posturées, parce que le sport également permet de corriger sa posture de façon naturelle. On pense beaucoup plus de façon instinctive à mobiliser ses abdominaux, sa ceinture abdominale, à mobiliser les bons muscles, à se baisser de la bonne manière, pour porter les personnes, déplacer les personnes.
Je retiens.
Et voilà pour aujourd'hui.
Merci.
Merci Marion. Alors si du 28 août au 8 septembre prochain auront lieu les Jeux paralympiques, attention, je fais super transition, eh bien Jules, lui, a plein de choses à nous dire sur les Jeux olympiques, donc qui auront lieu du 26 juillet... au 11 août de mémoire. Je n'ai pas tout noté sur ma feuille, hein, donc du coup, il manque des points, mais je crois que c'est ça.
Bonjour, je vais vous parler encore une fois des Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques antiques dont je vous ai parlé précédemment, penchons-nous sur les grands moments des Jeux Olympiques dits modernes. Je vais vous narrer quelques moments historiques, mythiques des JO. Je vais le faire par ordre chronologique. En 1900, les Jeux Olympiques sont organisés à Paris. Le fait marquant est que les femmes pouvaient enfin participer aux JO. Elles n'ont pu participer qu'au tennis et au golf. C'était malgré tout un bon début.
Je vois Fatih qui fait des grands hurrahs, c'est super.
Youpi.
En 1936, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Berlin. L'athlète Gis Owen, athlète noir, bat des records et gagne plusieurs médailles d'or. Il a brisé l'objectif d'Hitler d'utiliser les Jeux de 1936 comme un exemple du « nouvel homme aryen ». Owens devient alors ami avec le sauteur en longueur Luz Long. Ils firent un tour d'honneur qui devient par la suite un symbole de triomphe de l'esprit sportif sur l'idéologie nazie.
C'est beau.
En 1948, les Jeux Olympiques sont organisés à Londres. Un médecin anglais, Ludwig Guttmann, a créé les Jeux internationaux en fauteuil roulant pour aider à la rééducation des blessés de la Seconde Guerre mondiale. C'est maintenant ce que l'on appelle les Jeux Olympiques.
Les Jeux
paralympiques, oui.
Et là, c'est Marion qui fait des hurrahs.
On avance.
En 1968, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Mexico. Ils ont lieu en plein mouvement des droits civiques aux États-Unis. Les athlètes noirs américains sont fortement encouragés à boycotter les JO. À la place de cela, les deux sprinteurs afro-américains John Carlos et Tommy Smith ont organisé une protestation non violente en levant le poing dans le salut Black Power pendant les hymnes lors de la cérémonie de remise des médailles. Ils ont été ensuite suspendus du village olympique, mais leur lutte a été applaudie par le monde entier et internationalisée.
Bravo !
En 1976, les Jeux olympiques ont lieu à Montréal, au Canada. Les droits de l'homme étaient au premier plan des JO de Montréal après que 22 nations africaines eurent boycotté les JO en raison de la participation de la Nouvelle-Zélande.
Plus tôt dans l'année, la Nouvelle-Zélande avait suscité l'indignation des pays africains en envoyant son équipe nationale de rugby jouer en Afrique du Sud, pays soumis à l'apartheid. L'apartheid est un système politique qui est raciste et qui consiste à discriminer, voire exclure une partie de la population qui n'a pas les mêmes droits, les mêmes métiers que le reste de la population. En 1980, c'est au tour de la Russie, plus précisément de Moscou, d'accueillir les Jeux Olympiques. Les États-Unis vont, en pleine guerre froide, boycotter les Jeux Olympiques pour protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Les États-Unis boycottent les JO de 1980 et organisent en parallèle une compétition similaire qui se nomme la Liberty Bell Classic, qui a eu lieu à Philadelphie pour les athlètes des pays soutenant le boycottage. En 1992, les Jeux Olympiques ont lieu en Espagne, à Barcelone. L'équipe nationale de basket des États-Unis était tout simplement stratosphérique. Je peux citer quelques noms comme la superstar Michael Jordan, Magic Johnson et Scottie Pippen, le lieutenant de Jordan. Les exploits de la Dream Team ont lieu dans l'enceinte du pavillon olympique de Barcelone. L'équipe américaine gagne tous ses matchs avec un écart moyen de 43,75 points. Leur premier match a été contre l'Angola et ils ont gagné de 68 points.
Ça veut dire qu'il y a une moyenne de 43 points de plus,
oui, c'est ça,
que leur adversaire dans tous les matchs. Au moins, enfin, une moyenne, quoi.
C'est ça.
C'est énorme. Enfin, un panier de loin, c'est 3 points. Et un panier, genre, je ne sais pas du tout les termes du basket, mais quand on met juste un panier comme ça, en sautant, c'est genre 1 point. Donc ouais. 43 points, ça fait quand même sacrément de panier, quoi, on est d'accord.
Mmh. Tout à fait.
Les Américains avaient humilié tous leurs adversaires et ont gagné la médaille d'or olympique. En 1996, c'est à Atlanta que les Jeux Olympiques ont eu lieu. Ce sont les Jeux du centenaire. La première édition des Jeux Olympiques, dits « modernes », avait eu lieu en 1896 en Grèce. Malgré son combat contre la maladie de Parkinson, la légende de la boxe Mohamed Ali a allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture. C'était un début émouvant pour le centenaire des Jeux Olympiques. En 2000, les JO ont eu lieu en Australie, à Sydney. L'image marquante de la cérémonie d'ouverture et peut-être des Jeux Olympiques est que les deux Corées se sont alliées. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont apparues sous un seul et même drapeau, un drapeau blanc avec une carte de la Corée bleue. C'était une très belle image.
Pas mal, ça.
Ouais. Mmh. En 2008, les Jeux Olympiques sont organisés à Pékin, en Chine. Le nageur américain Michael Phelps est entré dans l'histoire en remportant 8 médailles en une seule édition des JO. Oh,
bravo. Ouais.
C'est bien.
Il a dépassé Mark Spitz, qui détenait le précédent record. Après avoir remporté sa 8e médaille, Phelps a fait une réflexion pleine d'humilité. Les records sont faits pour être battus, peu importe ce qu'ils sont. C'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt pour en apprendre toujours davantage sur les JO.
Merci beaucoup, Jules. Moi, perso, j'ai appris plein de trucs. Et puis, c'est vrai qu'on parle souvent des JO. Là, on n'a pas fini d'en entendre parler avec ceux qui vont arriver à Paris. Et on oublie parfois que c'est aussi des moments forts pour des protestations, des petites révoltes ou des grandes révoltes. Ou pour des moments, justement, d'amitié, même si c'est parfois éphémère. Mais ouais, il y a des belles choses qui en ressortent.
Mmh, tout à fait.
Moi, je sais qu'en 2028, les JO vont être à Los Angeles.
Ouais.
Ok. Et ben voilà, ça sera les prochains JO d'été après Paris.
Et en 2032, en Australie.
Encore ? Oui. Oh non, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Eh bien, pour enchaîner sur le week-end qui nous attend, c'est notre ami psychopathe qui va clore l'émission. Et mon petit doigt me dit que tu as de quoi nous faire passer une fin de semaine en toute sérénité.
Tout à fait, Aurore. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Le titre de ma chronique s'intitule « 6 techniques pour être épanoui ». Dans ce monde où on a besoin tout de suite, je vais vous faire part de 6 techniques et astuces simples, mais très efficaces, qui vont vous permettre d'être à la hauteur de certaines circonstances pas faciles à gérer, et aussi quoi faire devant des personnalités compliquées. Leurs résultats sont obtenus après quelques minutes de répétition. Ces 6 astuces vous éviteront aussi de dépenser des sommes coûteuses chez le psy ou chez un coach de vie. Certaines d'entre elles, vous les connaissez déjà, et peut-être même vous les mettez déjà en pratique. Vous êtes prêts pour ces 6 techniques ?
Allez,
vas-y.
C'est parti. Première méthode. Imaginez que vous croulez sous une pile de responsabilités et que vous pensez que vous n'y arriverez jamais à gérer tout cela. Ou imaginez que votre boss vous demande de travailler sur un énorme dossier imprévu à rendre le plus vite possible. Eh bien, pas de panique, car la méthode Eisenhower est faite pour vous. Comment cela fonctionne-t-il ? Cette méthode, qui a été conçue par le président américain Eisenhower, permet de cibler et lister les tâches les plus importantes aux moins utiles. En mettant en une les tâches urgentes et importantes à effectuer tout de suite, en deux les tâches importantes et pas urgentes en deuxième position, en trois les tâches pas importantes mais urgentes, et en quatre celles qui ne sont pas importantes et du tout pas urgentes. Compris ?
D'abord les urgences, en fait, et après, premier critère, c'est l'urgence, et après, c'est l'importance.
Voilà, exactement. Deuxième outil. Chaque fois que vous rencontrerez une personne qui risque de vous permettre de vous mettre de mauvaise humeur, au lieu de subir vos émotions négatives, voici une technique amusante à partager avec tout le monde. Collez sur le visage de cette personne une paire de lunettes ridicules, un nez de clown, une voix aiguë et grinçante, comique, et qu'il est en train de vous supplier qu'il veut satisfaire à tous vos caprices. Et vous m'en donnerez des nouvelles.
J'en rigole déjà.
Troisième technique, comment établir un premier contact mémorable envers tout inconnu au point que celui-ci ou celle-ci aimera vous revoir régulièrement ? Ou imaginez que vous avez un recrutement professionnel et que vous attendez à une suite favorable après cet entretien. La méthode consiste à imiter la posture et les mouvements de votre interlocuteur. S'il fait un geste, faites un peu plus tard incidemment le même geste. S'il parle lentement ou rapidement, faites de même. Intéressant, n'est-ce pas ?
Oui, j'avais déjà entendu ça, le mimétisme. Souvent, c'est inconscient. Moi, personnellement, je fais attention à ça chez les gens. Et du coup, je me dis que, dans le cas où tu dis, les recruteurs doivent aussi faire attention à ce genre de truc. Et quelqu'un qui imite ce que tu fais, que ce soit conscient ou inconscient, mais dans le cas où c'est inconscient, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'aise. Donc, du coup, ça montre aussi une certaine aisance dans la relation, dans l'échange. Donc c'est important.
Dans le jargon de développement personnel, ça s'appelle aussi la synchronisation.
Ah,
voilà, aussi simple que ça. Tout à fait. Mais évidemment, on le fait inconsciemment. Lorsqu'on est à l'aise avec quelqu'un, automatiquement, cette relation ou cet instinct se fait. Sauf que ce qui est très intéressant, on a la possibilité de l'introduire tout de suite une fois qu'on connaît cette technique.
Oui, du coup, on peut le faire consciemment aussi, on peut le conscientiser.
Exactement, tout à fait. Quatrième technique. La vie ne serait-elle pas plus simple et plus belle si vous avez la possibilité, en quelques minutes, d'effacer une image, un souvenir gênant et des émotions envahissantes qui vous obsèdent et vous empêchent d'être vous-même à l'instant T ? Eh bien, voici cet exercice qui va vous donner un bon bol d'air frais. Voyez mentalement l'image négative qui vous obsède en couleur. Transformez-la en noir et blanc. Voyez-la se déchirer en 1000 morceaux et qui s'en vont loin de vous en poussant le soupir « ouf ». Facile, n'est-ce pas ?
Ça fait penser à de la sophro. On faisait ça aussi en sophro, des fois, quand on avait des... Et on faisait les gestes.
Exactement, c'est la sophro. Voilà, on peut dire aussi... c'est de l'hypnose ou l'auto-hypnose, mais effectivement, c'est de la sophro, de la Gestalt. Mmh. Voilà, on va y arriver. Cinquième astuce. Si à tout moment, vous voulez retrouver aisément de la motivation, de la performance et les ressources nécessaires en vous immédiatement, faites ceci. Détendez-vous et soyez sûr de vous. Quand vous avez atteint cet état de certitude, soit de motivation ou autre, faites un geste, exemple, fermez le poing ou croisez les doigts et dites oui d'un ton ferme.
Ayez conscience de votre pouvoir et des ressources extraordinaires, mentales et physiques, que vous avez ici et maintenant, et agissez tout de suite vers votre réussite. Cet exercice est à répéter 5 ou 6 fois jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé.
Oui, oui, oui,
oui, oui,
yes.
Oui, oui, oui.
Encore ?
Oui, 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 oui.
Parfait, parfait, parfait. Donc on peut passer à la 6e méthode.
Allez.
Méthode pour atteindre ses objectifs. Très simple. 1. Écrire ses projets, ses rêves en termes positifs. Deuxièmement, visualiser la personne que vous voulez être dans 6 mois, 1 an, 5 ans.
Le pouvoir de la visualisation.
Exactement. Troisièmement, ressentez les émotions une fois que vous aurez atteint votre rêve et imaginez ce que votre entourage dira de votre succès. Et quatrièmement, passez à l'action en créant un plan.
Eh oui, la dernière action est très importante. Il faut passer à l'action, il ne faut pas se contenter d'imaginer. Hein.
Tout à fait. Et donc, pour compléter toute cette panoplie, n'oublions pas que la base d'une longue et heureuse vie passe par quoi, à votre avis ?
Le bonheur.
Par le bonheur,
la sérénité.
Plus simple que cela, la sérénité,
la joie,
positif. La joie de là,
positif,
être positif, exactement,
la joie de vivre,
et aussi tout simplement par une bonne hygiène de vie,
oui,
voilà, par une alimentation bien équilibrée, une qualité de sommeil, du sport sans oublier, comme on a dit tout à l'heure, et voilà, et un état d'esprit positif, un état d'esprit positif envers chaque circonstance et être sympathique envers tout chacun. Merci, à bientôt.
Bien, merci psychopathe pour ces conseils et astuces. Ton point numéro 2, ça m'a fait rire parce que visualiser la personne avec des choses ridicules et tout, ça me fait vraiment penser à Harry Potter quand il jette le sort du ridiculum. C'est pour détourner en choses ridicules une peur qu'on a et du coup pouvoir complètement la dramatiser.
Ah oui, sur l'épouvantard.
Oui, voilà, ils utilisent l'épouvantard qui se transforme en leur peur la plus profonde et eux ils jettent le sort et en fait en jetant le sort ils doivent imaginer cette chose qui leur fait peur de façon ridicule et là du coup c'est pas ça, on n'est pas dans la peur, mais on est quand même un peu dans une angoisse
oui, tout
quand
à fait,
on a quelqu'un
exactement.
Qui nous pressurise. Quoi.
C'est ça. Ce qui est très intéressant avec cet exercice, c'est qu'il est extrêmement simple, c'est-à-dire que au lieu de passer, par exemple, des exercices compliqués d'hypnose ou de séances de psy, eh bien, grâce à cet exercice-là, en quelques minutes, supposons qu'on a affaire à un patron colérique ou un client.
Pénible,
eh bien, il suffit juste de mettre une petite moustache, voilà, qu'il soit habillé en clown, et voilà, à notre grand étonnement, on verra qu'on est plus apaisé, on verra qu'effectivement, la réaction que la personne nous provoquait, eh bien, elle part. Bien sûr, ça demande du boulot,
oui,
mais
c'est du travail sur soi aussi.
Exactement, mais ça fonctionne. La preuve en est, j'ai essayé, et c'est magnifique, sans oublier les autres exercices.
Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup. On va rester dans le domaine un peu de la fantaisie, avec l'exemple d'Harry Potter que j'avais donné. Et on va terminer notre émission infernale, en musique, comme d'habitude, avec Honeylune Ridge Escape, extrait de la BO du jeu vidéo Super Mario Odyssey, un morceau qui nous a été proposé par Martin, notre étoile filante. Merci à vous, mes chroniqueuses Fatih, Bertil et Marion. Et à nos chroniqueurs Martin, Jules et Psychopathe.
Toujours présent.
À vous, chers auditorices, je vous souhaite un agréable week-end. Et à bientôt pour une prochaine émission de la matinale.
Et encore merci, Aurore. Et à bientôt.
De rien, de rien. We'll be right back.